Le thème de mon intervention est étroitement lié à celui de Hélène. Dans une perspective toutefois, je dirais plus d'un point de vue, je dirais pays non occidental. On va ensemble, en l'espace de 20 minutes naturellement, explorer les conséquences, les implications liées justement à la diffusion de normes, pas uniquement la diffusion de normes en faveur de normes internationales ou de standards internationalement reconnus, par rapport à la protection des réfugiés, des demandeurs d'asile, ou par rapport aux droits des migrants, naturellement. Mais on va également s'intéresser au transfert de pratiques politiques et également à ce que l'on appelle plus techniquement, un terme un peu barbare en français, je trouve, les transferts idéels, c'est-à-dire la manière dont les manières de concevoir justement les politiques publiques sont en quelque sorte influencées par des idées circulation. Comme l'a dit Hélène, et là c'est super parce que ça me laisse beaucoup plus de temps pour d'autres choses, elle vous a fait en 2-3 minutes un récapitulatif des théories de l'approche de la diffusion en relations internationales. Les transferts naturellement en font partie intégrante. J'ajouterais juste par rapport à ce que Hélène nous a dit, propos auquel j'adhère totalement, que justement cette référence au constructivisme en matière dans le domaine des relations internationales, disons que son développement à partir des années 90 ne s'est pas fait de manière, pas par accident, je dirais, puisque cela correspond aussi à des développements politiques internationaux dès les années 90, après la chute du mur de Berlin, le système soviétique n'existait plus, etc. Donc il y a eu, la bipolarité a disparu d'un seul coup, on va dire, et il fallait en quelque sorte s'intéresser à la manière dont les États pouvaient en quelque sorte, adhérer à des normes internationales dans un contexte que l'on appelle dans notre petit jargon néo-wilsonien, c'est-à-dire que c'est une référence à la politique de Woodrow Wilson qui, au début du XXe siècle, avait tenté de définir une doctrine visant en quelque sorte à induire, encourager des États dans une forme d'interventionnisme doux, si vous voulez, des États qui n'étaient pas respectueux des droits, de certains droits, de droits humains ou d'autres encore, et qui, cette doctrine, si vous voulez, a été réactivée à partir des années 90 sous l'administration Bush, justement, et elle avait également pour objectif de favoriser une forme d'interventionnisme extérieur qui était perçu comme nécessaire afin de garantir en fait une stabilité, une bonne gouvernance. Et tous les termes de best practice, good governance, la bonne gouvernance, etc. sont apparus après, naturellement, à la fin de la guerre froide, et ont acquis toute leur légitimité politique et internationale à partir de cet intérêt-là. Alors il est vrai, comme l'a dit Hélène, que d'un point de vue scientifique, on s'est beaucoup intéressé à ces processus de diffusion, les transferts, etc., la manière dont en quelque sorte, des pratiques administratives, politiques, des idées dans un environnement politique donné peuvent être reproduites, émulées, dans un autre contexte administratif, politique également. Alors, il ne s'agit pas d'une influence, c'est pas ça. Il ne s'agit pas uniquement également d'émulation qui pourrait s'effectuer par un apprentissage, une bonne pratique, etc. Mais il y a également des effets structurants que j'ai à peine évoqués très brièvement. Cela peut se faire également par incitation. Vous avez certainement entendu parler des conditionnalités. La conditionnalité est une forme, on va dire, coercitive, il faut utiliser ce terme, ce n'est pas autre chose quand même, une manière coercitive d'induire en fait un autre État à, adopter des pratiques ou des règles ou des règlements en vertu d'une récompense, enfin, qui sera conditionnée par rapport à des faits, à des politiques, qui se seront manifestées dans les faits. Alors la gouvernance migratoire, si vous voulez, n'a pas du tout fait exception à ces processus de diffusion, bien évidemment. Cela s'est opéré de manière douce et de manière, je dirais, si vous passez l'expression, de manière un peu plus rade, par naturellement la mise en place de processus consultatifs régionaux. En Méditerranée, il y en a eu plusieurs. Delphine en a cité également certains ce matin. Ces processus consultatifs régionaux sont en fait, si vous voulez, des rencontres de haut niveau qui se sont démultipliés au cours des 15 dernières années, je dirais de manière non chaotique. Et ça pourrait surprendre d'une certaine manière, puisqu'il y avait un chevauchement entre ces différentes initiatives interétatiques mobilisant de nombreuses institutions, aussi bien gouvernementales que intergouvernementales, également des agences des Nations Unies. Donc si vous voulez, tout ce développement s'est fait de manière non chaotique, de manière ordonnée, et pour une simple raison. Tout simplement parce qu'elles ont, enfin toutes ces initiatives, si vous voulez, ont respecté une forme de, une sorte de script. Ce script s'appelle l'agenda international sur la gestion des migrations. Chose, enfin agenda dont vous avez certainement tous entendu parler, qui est un agenda qui non seulement était basé sur trois volets, d'une part le contrôle des flux et des frontières, comme l'a dit également Delphine et Hélène, promotion naturellement des migrations légales, temporaire, hein, il faut quand même le préciser, et puis également le fameux lien entre migration et développement. Donc ces trois volets étaient des trois volets qui, je suis d'accord certainement avec vous, qui sont des volets, je dirais, assez classiques auxquels nous avons été confrontés au cours des, je dirais, 15 dernières années. Mais disons, ils avaient aussi un autre objectif qui n'est pas très souvent étudié, qui était celui en fait de réifier, et ça c'est clairement mentionné dans cet agenda, la centralité gestionnaire des États, sans remettre en question leur souveraineté. Et cet agenda ne se serait jamais développé à l'échelle globale s'il avait remis en question, on s'en doute, la souveraineté des États. Et c'est parce qu'il n'a jamais remis en question justement la souveraineté des États qu'il a pu en fait renforcer des liens d'interdépendance sans précédent entre des États dont, aux régimes très différents, entre des démocraties et des régimes autoritaires. Par exemple, entre des pays riches et pauvres, entre des grands pays très peuplés et d'autres faiblement peuplés. Donc tout ce développement, si vous voulez, a été parfaitement ordonné par le biais d'un consensus qui s'appelle l'agenda international sur la gestion des migrations. À partir de là, le fameux renforcement des capacités dont, encore une fois, tous vous avez entendu parler. Un autre développement qui est important, qui est également la manière dont la question migratoire s'est encastrée graduellement au cours des 15-20 dernières années dans des processus de régionalisation, également dans des pratiques de conditionnalité. Alors, si vous voulez, les rencontres consultatives ont toujours été, si vous voulez, un mode ordinaire d'interaction entre États. Mais je trouve que ce qu'il y a justement de très extraordinaire est justement leur capacité en fait à créer une forme de consensus sur laquelle finalement les pratiques à l'échelle internationale et nationale se sont graduellement alignées. Donc la gouvernance a véritablement, oui, une dimension normative. Je dirais qu'elle a... Cette dimension est si normative qu'elle tend d'une manière à occulter les pratiques politiques et administratives locales dans les pays qui sont récepteurs de ces pratiques-là. Alors si on s'est fortement intéressé à la diffusion, on s'est intéressé surtout au processus de diffusion. Mais je pense que mes collègues peut-être seront d'accord avec moi, quand il s'agit en revanche d'analyser justement le décalage entre... les normes diffusées et leurs pratiques, là on a quelques difficultés d'un point de vue, disons, outil d'analyse. Et là c'est un gros problème. Et pourtant, dans l'histoire des modes de diffusion, ce décalage a toujours existé. Or, il est intéressant que les internationalistes aient développé, disons, un faible intérêt par rapport à l'impact concret de cette diffusion dans les pays dits récepteurs. Intéressant aussi, on en parlera durant le débat, il ne s'agit pas uniquement naturellement d'un rapport binaire entre un pays émetteur et un pays récepteur. Je crois que les choses sont plus complexes dans la pratique. Je vais essayer de vous le démontrer par des exemples très concrets dont je tire dans le contexte dont je m'inspire, pardon, dans le contexte euro-méditerranéen. Oui, donc ces modes de diffusion, également ces processus de régionalisation ont créé des liens d'interdépendance entre États, certes, des alliances entre pays aux intérêts fort divergents, et la gouvernance migratoire en est un bon exemple. En revanche, peu de choses ont été écrites sur la manière dont ces principes, objectifs partagés, au cours de ces processus consultatifs régionaux, ont été réinterprétés, voire canalisés par les pays récepteurs. Passons aux exemples. Il nous reste peu de temps. Je pense qu'il me reste combien de temps maintenant? 5 minutes? Non? Un peu plus, d'accord. Je vous donne quelques exemples par rapport au pays du Maghreb, pays dans lequel je pense connaître assez bien, en tout cas. Vous savez, ce sont le Maroc, la Tunisie, l'Algérie se sont fortement impliqués dans le cadre de ces processus consultatifs régionaux, dans le cadre de processus de régionalisation. Il est inutile de m'attarder sur la politique européenne de voisinage, sur le processus de Barcelone. Tout cela, naturellement, on le sait, crée des liens d'interdépendance, mais crée également des conditionnalités entre les pays faisant partie de ces processus de régionalisation. Alors, naturellement, des pays tels que le Maroc et la Tunisie, par exemple, se sont fortement impliqués dans ces processus, dans ces pourparlers, ben, ce n'est pas naturellement parce qu'ils permettent uniquement de créer des alliances stratégiques entre des États, mais c'est aussi parce qu'ils permettaient de renforcer leurs fonctions régulatrice et de contrôle sur leur propre société. Et ça, je vais vous donner 4 exemples bien concrets, qui peuvent même vous surprendre. Parce que là, il faut en effet vous débarrasser d'un biais, je dirais, occidental ou européen, on va dire, d'une certaine manière. En Tunisie, par exemple, même au Maroc, la lutte contre l'immigration irrégulière et l'adoption de lois répressives vis-à-vis des étrangers en situation irrégulière, eh bien, tout cela avait été fortement applaudi par les pays limitrophes, l'Italie, l'Espagne, l'Union européenne, Bruxelles, bien évidemment. Mais si vous voulez, le caractère vague de l'énoncé dans ces lois ne visait pas uniquement à lutter contre le trafic de migrants, mais cela également permettait de renforcer un certain pouvoir discrétionnaire sur la société tout entière et de placer les autorités, qu'elles soient, des autorités policières ou judiciaires, comme seuls garants de la lutte effective contre l'immigration irrégulière, tout en fait occultant les causes profondes de cette émigration irrégulière, à savoir non seulement la pauvreté, mais surtout la violence politique dans le pays. Alors, il y a en Tunisie, par exemple, une loi qui avait été adoptée en 2004, et cette loi était répressive, certes, mais elle permettait, comme certains chercheurs tunisiens l'ont très bien démontré, Hassan Ella, mais il y a également Hamza Meddeb, qui est un politiste qui a travaillé longuement sur l'impact en matière de contrôle renforcé sur la société tout entière de cette loi qui avait été adoptée par les autorités tunisiennes en 2004. Donc qui renforçait un pouvoir de domination sur la société tunisienne. Un autre exemple, les fameuses campagnes d'information adressées aux migrants, aux potentiels migrants dans les pays d'émigration. Vous savez que les Nations Unies ont promu, par le biais de l'OIM, le HCR également, mais pas uniquement, les ONG étaient fortement impliquées dans le cadre de campagnes d'information visant à informer les populations locales du danger des migrations irrégulières, naturellement. Alors tout cela est louable, mais si vous voulez, pour des pays, disons, autoritaires, cela constituait un parfait alibi. Je parle là, entre autres, du régime du président Ben Ali, puisqu'en fait, ces campagnes, si vous voulez, produisaient une image infantilisée des migrants. Et cela permettait surtout d'occulter, encore une fois, les motifs de départ des migrants. Et ça, c'était un parfait alibi pour le régime passé. Un troisième exemple, la fameuse mobilisation de la diaspora permettant de contribuer au développement du pays d'origine. Eh bien, encore une fois, aussi bien le Maroc que la Tunisie l'ont réinterprété à leur manière afin de renforcer l'interférence du parti au pouvoir dans les affaires des émigrés à l'étranger. Mobiliser leurs propres citoyens résidant à l'étranger dans le cadre d'activités visant non seulement à apporter des fonds au pays, mais également à renforcer encore une fois la centralité de l'État et du parti au pouvoir. 4e exemple, et là je terminerai, il me reste encore quelques minutes, la coopération en matière de réadmission. Et je pense en une minute pour vous expliquer ce qu'est la réadmission. La réadmission est le processus par lequel une personne est expulsée d'un territoire d'un pays vers le territoire de son pays d'origine ou de dernier transit, normalement. Alors, les pays du Maghreb ont toujours coopéré en matière de réadmission, certes, de manière plus ou moins effective. Ils ont joué là-dessus, ils ont capitalisé également sur leur position stratégique de gardien des frontières extérieures, c'est vrai, de l'Union européenne. Pas de manière passive, et c'est ce sur quoi j'aimerais intervenir dans le cadre de mon intervention, mais de manière très stratégique, au contraire. La réadmission, pour revenir à cette question-là, la Tunisie, par exemple, a toujours été un pays qui a été coopératif, mais peu coopératif d'une certaine manière, par rapport à la question de la réadmission, et les pays tels que la France, l'Italie, ont souvent dénoncé le manque de coopération des autorités consulaires tunisiennes, puisqu'il est nécessaire d'avoir un document de voyage, un laissez-passer consulaire nécessaire à identifier et à, justement, expulser une personne de France ou d'Italie vers la Tunisie. Eh bien, les autorités consulaires tunisiennes étaient souvent réticentes à délivrer, en fait, ce laissez-passer. Très bien. En revanche, il s'est passé quelque chose. À partir de 2009, les autorités tunisiennes sont plus coopératives vis-à-vis des autorités italiennes. Il se passe quelque chose, en effet. Qu'est-ce qui a bien motivé, en fait, le gouvernement de M. Ben Ali à coopérer un peu mieux, pas de manière maximale, mais en matière de réadmission, et cette coopération a été saluée par le gouvernement Berlusconi, naturellement, en disant « Nous avons enfin exercé une pression positive sur ce pays qui a toujours été réticent, mais pourquoi ?» Mais tout simplement parce que la réadmission, donc l'acte par lequel une personne étrangère est expulsée d'un autre pays, eh bien permettait au régime de lutter contre la dissidence politique. Voilà ce qui se passait. Donc les Tunisiens qui fuyaient, surtout après les manifestations dont vous avez probablement tous entendu parler en 2008, qui ont été réprimées dans le sang, Ardaïef à Gafsa, bien évidemment, beaucoup de personnes ont été torturées, certaines ont été tuées, certaines ont fui en traversant le détroit de Sicile, d'autres sont allées, sont se réfugiées en Algérie. Eh bien, pour les autorités tunisiennes, la meilleure façon de lutter contre cette dissidence qui s'installait à l'étranger, et donc qui pouvait de l'étranger avoir toute la protection nécessaire pour dénoncer la violence du régime, eh bien la meilleure façon c'était de coopérer en matière de réadmission avec les autorités italiennes. Et donc cela s'est fait de manière assez exceptionnelle, ça a été dénoncé d'ailleurs par des agences des Nations Unies. Le HCR a réagi de manière assez forte par rapport justement à ces procédures accélérées d'expulsion qui avaient été mises en place par le gouvernement Berlusconi sur l'île de Lampedusa en coopération étroite avec les autorités consulaires tunisiennes. Vous comprenez ce qui se passait, je pense. C'est-à-dire que les personnes qui fuyaient la Tunisie, grâce aux autorités consulaires tunisiennes, elles étaient en mesure finalement de lutter contre l'immigration irrégulière et de accélérer les procédures d'expulsion de ces Tunisiens qui cherchaient probablement asile en Italie ou en Europe. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, si vous voulez, tout cela a été dénoncé. L'Italie a également été réprimandée par les autorités, par le Parlement européen, en l'occurrence, bien après. Mais tout cela pour vous dire que, certes, sous couvert de lutte contre l'immigration irrégulière, donc la fameuse gouvernance migratoire, de promotion du lien entre migration et développement, de renforcement des frontières, etc., eh bien, là, on a des exemples, des foisonnes. Je ne vous en ai donné que quatre, mais je pourrais vous en donner encore d'autres, bien évidemment, pour vous donner un exemple concret de la manière dont, en fait, ces normes, ces pratiques, naturellement, sont réinterprétées localement. Elles ne sont pas de manière passive. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour conclure, combien de temps me reste-t-il? Est-ce que j'ai terminé? Une minute. La perméabilité aux transferts externes, si vous voulez, existe toujours, bien évidemment. Elle est toujours d'actualité. C'est absolument vrai. L'enjeu humanitaire qui s'était créé en 2011 nous avait fait espérer d'une certaine manière à un renversement des priorités qui avaient jusqu'à présent orienté cette gouvernance migratoire, c'est-à-dire mettre, si vous voulez, l'humanitaire avant le sécuritaire. Ce que l'on observe, malheureusement, c'est qu'en l'espace de quelques mois, en 2011, le Conseil européen a remis, si vous passez ces expressions, les pendules à l'heure. La Commission était sur le point, en effet, de changer son point de vue, d'une certaine manière, par rapport aux priorités qui avaient orienté la gouvernance migratoire dans les rapports euro-méditerranéens. Or, dès juin 2011, donc quelques mois après les révolutions dans plusieurs pays arabes, eh bien, le Conseil européen a remis les pendules à l'heure par une communication officielle en disant la priorité de l'Union européenne sera en tout cas la réadmission des personnes en situation irrégulière. Tout cela s'intègre dans un cadre de lutte et de coopération en matière de lutte contre l'immigration irrégulière. Donc, en quelques mois, le Conseil essaie de redresser un peu, si vous voulez, cette émotion qui s'était créée au début de l'année 2011. Les pays d'Afrique du Nord sont sujets à, je dirais, une vulnérabilité accrue, puisqu'ils ont besoin naturellement de trouver de nouvelles alliances. En Tunisie, par exemple, le gouvernement a changé. Il faut rassurer les autorités internationales, montrer que le partenaire européen peut toujours soutenir la transition démocratique, et surtout après les élections d'octobre 2011. Donc cette vulnérabilité, si vous voulez, des autorités tunisiennes s'est fortement accrue. Et puis 2012 a été une année de, je dirais, si vous passez cette expression, de bombardement d'expertise, de capacité building, de renforcement des capacités. Ça a été exceptionnel ce qui s'est passé en Tunisie, où le secrétaire d'État aux migrations s'est vu exposé à des influences extérieures qui, d'une certaine manière, ont permis, et là je terminerai, de renforcer les conditionnalités qui étaient celles du passé. Le partenariat pour la mobilité qui a été signé ensuite en 2014 n'est le fruit en fait que d'un réalignement des autorités tunisiennes sur ses priorités globales. Et puis bon, voilà, à mon avis, ce qui se passe aujourd'hui, il est probable que la Tunisie d'aujourd'hui devra d'une certaine manière de nouveau capitaliser sur sa coopération effective en matière de lutte contre le terrorisme international et le contrôle des frontières, de manière à pouvoir, si vous voulez, faire valoir sa propre position. Donc vous voyez, on est revenu un peu en arrière et les priorités d'hier sont toujours celles d'aujourd'hui. Voilà, merci.